Chapitre 37. Casimir Malevitch. Autonomise-toi. Camille avait les traits tendus, la mâchoire serrée. Elle accompagnait sa fille au centre ophtalmologique où la petite devait subir la série d'examens qu'avait prescrit le docteur Van Horst juste avant les vacances, à titre de contrôle. Parmi tous les tests à passer, il y avait la mesure de la tension oculaire qui consistait en la projection d'un petit flux d'air sur la cornée. Mona trouvait la sensation infiniment désagréable. Camille observait sa fille et voulait hurler de rage, tellement la menace de la cécité qui planait sur l'enfant lui faisait mal au ventre. Elle aussi tint bon. Dans la salle où elle attendait ses résultats en compagnie de quelques autres personnes sagement assises, Mona se fixa un défi. Elle se dit que si elle parvenait à compter jusqu'à 30 dans sa tête en moins de 20 secondes, il serait positif. Elle se pencha sur sa montre, se mit en apnée, enchaîna les nombres, parvint à son but. Mais c'était trop facile. Un vrai défi, ce serait plutôt de se résoudre à faire l'andouille, comme disait son père. Elle décida alors que si elle parvenait à susciter le rire chez sa mère en moins de 10 minutes, les nouvelles seraient bonnes. Il était 15h11. À 15h13, elle multiplia les grimaces, ce qui excéda Camille qui lui intima l'ordre d'arrêter. À 15h15, elle tenta une charade lourdaude, sans l'effet attendu. À 15h18, elle retenta une grimace. Le temps pressait. Alors l'enfant, sûr que sa vie dépendait du rire de Camille, assuma de semer un vrai désordre dans la salle d'attente plombée par le silence. À 15h19, elle se leva et proposa au patient présent une devinette. Camille était ulcérée, mais Mona ne se rassit pas. Elle sortit ses incisives à la façon d'un rongeur, posta les mains derrière sa tête penchée en avant, puis elle les colla à la verticale juste au-dessus de l'occiput et les fit claquer. « Vous savez ce que c'est, ça ?» demanda-t-elle à la cantonade. Un peu courroucée par cette performance impromptue, l'assistance grommela. « Un lapin qui fait de la moto sans son casque !» lança Mona triomphante. Elle se retourna et haussa les épaules d'un air désolé. Sa mère leva les yeux au ciel et craqua, laissant échapper un petit rire charmant. Il était 15h20. Henri apprit par Camille que les examens médicaux de Mona n'avaient non seulement détecté aucune anomalie, mais témoignaient même d'une qualité de perception rarissime, très au-dessus d'un niveau d'excellence. Mona, pudique, n'avait jamais raconté à son grand-père que le docteur Van Horst lui avait un jour annoncé qu'elle avait une acuité visuelle de 18 sur 10, soit celle d'un tireur d'élite ou d'un pilote de chasse. Henri fut enchanté de la nouvelle, mais prudent ne laissa rien transparaître de sa joie. L'œil absolu. Oui, peut-être jouissait-elle de l'œil absolu. Mona avait sans doute de l'or dans les yeux en plus d'en avoir dans le cœur. Elle saurait donc comprendre derrière son apparente austérité l'immense portée de l'obscur Casimir Malevitch. C'était sur un fond blanc une simple croix noire. Une croix grecque, celle dont les branches horizontales et verticales ont la même longueur et dont l'intersection est située en leur centre respectif. Les deux branches étaient épaisses. L'une et l'autre paraissaient occuper approximativement le tiers de la surface d'où elles naissaient, sachant que le tableau mesurait 80 cm sur 80. En réalité, rien n'était si structuré ni si géométrique. La symétrie vacillait. Le rectangle horizontal possédait des côtés suffisamment obliques pour virer au trapèze, et la tête de la croix penchait imperceptiblement vers la gauche de la composition. Les traits ne donnaient pas l'impression d'une stricte régularité ni de proportions tout à fait solides. Quant au noir et au blanc, ils avaient une texture qui produisait une foule de nuances et d'aspérités. Quoique d'une sobriété et d'un minimalisme d'une franche aridité, l'œuvre n'en demeurait pas moins vibratoire, sinon sensuelle. Mona était d'humeur taquine ce jour-là. Ah, son grand-père, après l'avoir conduite la semaine précédente devant un porte-bouteille, l'emmenait cette fois-ci devant une croix noire sur un fond blanc, sans fruits, sans fleurs, sans visage ni paysage, sans bataille ni détail, sans même une touche de rouge ou une pointe de jaune. Puisqu'il semblait vouloir la mettre au défi de passer un très long temps devant presque rien, eh bien soit, elle résisterait. Au bout de 40 minutes, Henri brisa le silence. Kazimir Malevitch est né en 1879 dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, mais à l'époque il s'agissait de l'Empire russe. C'était alors le plus grand pays du monde, dominé par un tsar tout-puissant. Quand le peintre meurt en 1935, la Russie est devenue l'URSS, un territoire encore plus vaste, immense, sous la coupe d'une dictature totalitaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont d'abord des ouvrières en grève et en colère qui ont soulevé le peuple et fait capituler le tsar en 1917. Malevitch a soutenu cette révolution, il y a même participé, comme beaucoup d'artistes de sa génération. Il avait un tempérament révolutionnaire.
Oh, ça me rappelle David, ça. Mais quand même, j'ai du mal à croire qu'avec un tableau comme ça, on fait la révolution.
Et pourtant, pensa son grand-père, il y a des milliers de manières de s'insurger, de s'indigner, de crier à l'injustice, d'exalter les foules contre le pouvoir en place. Le tout est de trouver le mode d'expression conforme au contexte du moment. David l'avait trouvé, incontestablement. Ce qu'il fallait faire comprendre à Mona, c'était que cette croix, cette simple croix, réduite à rien d'autre qu'elle-même, sur son fond blanc, ce zéro des formes, comme disait Malevitch, était elle aussi, en 1915, une charge explosive. En fait, reprit Henri, quand Malevitch peint et expose ce tableau, il se rattache encore à un courant artistique très important en Europe, le futurisme. C'est un courant qui préconise la mutation constante, la métamorphose de tout, tout le temps, souvent avec violence. Eh bien, Malevitch, avec ses abstractions d'un dépouillement extrême, pousse cette logique dans ses retranchements les plus insensés. Il fait comprendre qu'on doit repartir de choses élémentaires, qui sont au plus profond de nous-mêmes, pour imprimer des changements sur le monde. On peut repartir des couleurs qui habitent notre âme, d'une simple ligne, d'un cercle, d'une croix, d'un carré, d'une oblique, de notre intériorité la plus sobre, la plus pure, pour enclencher d'immenses bouleversements. « C'est drôle, » susurra Mona. « Tu vois, au début, on croit que cette croix, c'est juste une croix toute bête. Mais en fait, les lignes penchent un peu. Il y a des choses qui bougent. La croix, elle est vivante. Elle est vivante parce qu'elle frémit, » compléta Henri. Ce qu'exprime Malevitch, ce sont les soubresauts et les rythmes les plus infimes, les plus intimes, qui dictent encore à l'univers entier toute sa marche. La direction, les rapports de gravité, d'apesanteur, la fluidité, la traversée des espaces, la révolution des atomes et des planètes. Ce qu'exprime Malevitch, c'est ce degré minimal de l'action, son germe, son tremblement initial à compter duquel tous les possibles existent et se déploient. C'est un appel à la liberté totale. Mais la croix, c'est aussi l'histoire de Jésus, Dadé. Est-ce qu'il le savait, Malevitch, qu'il peignait un symbole de la religion ? Bien sûr, il a cette idée en tête quand il la peint. D'autant que Malevitch a un tempérament très spirituel, comme Kandinsky. En ce sens, son abstraction est un levier révolutionnaire parce qu'elle manifeste son rejet du matérialisme.
Son rejet du quoi ?
Le matérialisme, c'est d'abord une vision du monde qui consiste à dire que l'univers n'est composé que de matière et qu'il est inutile ou illusoire de se préoccuper de ce qui est divin, de ce qui est transcendantal, comme disent les savants. Mona articula le mot en silence. Or, Malevitch reste très attaché à ce qui est invisible, impalpable. Cette croix n'est pas une croix chrétienne comme on en voit dans les églises. Elle est néanmoins chargée d'une aura sacrée.
Mais est-ce que les gens qui voyaient cette croix percevaient tout ce que tu me dis ?
Certains y voyaient une provocation stupide. D'autres admettaient que c'était révolutionnaire. Dans le contexte de 1915, on sentait que Malevitch cherchait à libérer l'art de tout ce qui était convenu et à lui donner un élan nouveau. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que les tableaux de Malevitch, qu'on pourrait croire inoffensifs tant ils sont dépouillés, ont fini par poser de très sérieux problèmes. Je vais t'expliquer. Mona prit un air exagérément sérieux. En 1922, naît l'Union soviétique. Et Malevitch est plutôt favorable à cet énorme changement politique et social où l'on passe d'un régime de privilèges, celui du tsar, à un système qu'on appelle le communisme. Mais très vite, les communistes furent nombreux à se méfier de l'art, des tableaux, de la peinture.
C'est-à-dire?
Eh bien, il y avait chez les communistes de nombreux opposants à tout ce qui est trop intellectuel, trop individualiste dans l'art. À leurs yeux, de telles recherches d'avant-garde allaient à l'encontre d'une société égalitaire. Cela faisait de la culture une exception aristocratique, réservée à une élite. Mieux encore, très vite on a voulu que l'art soit strictement et uniquement au service de la cause révolutionnaire et de l'Union soviétique. Alors Malevitch, il devait avoir l'air bête avec ses croix et ses carrés. Il semblait surtout fou et un peu dangereux. On considérait d'un mauvais œil quelqu'un qui peignait des formes aussi simples et clamait que tout était possible, que chacun pouvait se fier à sa propre intériorité, à ce qu'il voyait en lui-même, à sa subjectivité. Et figure-toi qu'on a donc interdit à Malevitch de produire ses croix, ses monochromes, ses tableaux réduits à des textures et de pure géométrie. Il était surveillé, humilié. Et il mourut assez rapidement au milieu des années 1930 d'un cancer. Ce que veut montrer Malevitch, c'est qu'un tableau est un espace autonome. Autonome, ça vient du grec nomos, qui signifie la loi, et d'auto, qui signifie à soi-même. Ce qui est autonome, c'est donc ce qui se donne à soi-même sa propre loi. Avec sa géométrie élémentaire, l'art de Malevitch découle de règles qui n'appartiennent qu'à lui. C'est un art qui se détache complètement de la nature qui nous environne. Imiter cette nature, ce serait s'y inféoder, s'y aliéner, en être prisonnier.
C'est drôle, Daddy, parce que papa me dit parfois qu'un jour, quand je serai grande, je serai autonome moi aussi. Je comprends mieux maintenant.
Malevitch exhortait chaque individu à naviguer dans l'abîme libre blanc et dans l'infini à sa guise. Le contresens au sujet de cette croix, aussi bien qu'au sujet du carré noir sur fond blanc, consisterait à les voir comme un point final à l'histoire de l'art, comme un voile de deuil qui signifierait que la peinture est morte.
La peinture qui serait morte. Ça, tu m'as dit que c'était ce que pensait Marcel Duchamp.
Sauf que Malevitch, lui, ne croit pas du tout cela. Il pense au contraire qu'elle renaît grâce à son abstraction qu'il appelle suprématiste. Elle renaît parce qu'elle en revient à un stade élémentaire et embryonnaire infiniment riche. D'ailleurs, sans qu'on s'en rende compte, il y a dans tout ce qui t'entoure beaucoup de choses, en particulier dans le design et l'architecture, qui sont inspirées par ce genre d'abstraction du début du XXe siècle. Il fallut l'intervention d'un gardien pour arracher Mona et son grand-père à leur méditation.
« Dites donc, vous deux, est-ce que vous préparez un mauvais coup ?»«
Un mauvais coup ?» s'étonna Henri. « Et pourquoi donc ?»«
Voilà une heure que vous regardez cette croix. Personne ne regarde jamais cette croix plus de 10 secondes. »«
Allons, mon ami, un vieux monsieur et une fillette, de quel mauvais coup parlez-vous ? Encore un instant et nous ne vous embêterons plus avant la semaine prochaine.
Encore 5 minutes, pas une de plus. »
Le gardien retourna s'asseoir sans quitter le binôme du regard. Mona s'esclaffa.
« Bon, ça suffit. Faut laisser le tableau aux autres gens.